Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Marc Golleridon et Rosalie Sucre, réalisée par Benjamin Hu, mise en onde ce matin par Jean-Guy Dermège. Et on salue notre stagiaire de troisième qui est venu pour observer comment se fait la radio cette semaine. C'est Aurélien Romanetti, on le salue. Premier temps donc d'une série consacrée aux géants du web, Amazon, Google, Facebook et consorts. Ces multinationales du numérique ont révolutionné nos vies, mais elles provoquent aussi des résistances liées aux menaces qu'elles peuvent constituer. Géants du web, les nouveaux bras de fer. Pour commencer, on va s'intéresser aujourd'hui à l'Union européenne. Fiscalité, données personnelles, libre concurrence. L'Union européenne en résistance, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Those are great American companies and...
Ce sont de grandes entreprises américaines, et franchement, je ne veux pas que la France taxe nos entreprises. Et s'ils le font, nous taxerons leur vin ou quelque chose de ce genre. Nous taxerons leur vin comme nous ne l'avons jamais fait avant. Je n'aime pas ça, c'est à nous de taxer nos entreprises, pas à la France.
Mon message va être clair, nous n'abandonnerons jamais, jamais, jamais cette volonté de taxer de manière juste les géants du numérique pour avoir une fiscalité du 21e siècle qui soit juste et qui taxe les activités digitales.
L'affaire Apple concerne les impôts et les entreprises doivent payer leurs impôts. La plupart des entreprises le font, mais les grandes entreprises doivent aussi payer leurs impôts. Il s'agit donc que tout le monde ait une chance de réussir. Et non, nous n'avons pas encore fini. Le monde n'est pas nécessairement juste, mais je pense que ça va un peu mieux. Et c'est la bonne façon de faire.
Voilà, on entendait à l'instant Margaret Vestager, commissaire européenne à la concurrence, c'était en avril dernier. On entendait également ministre des Finances Bruno Le Maire, c'était au début du mois. Et puis enfin Donald Trump qui, l'été dernier, menaçait d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les vins français. Adoptée en juillet dernier, la taxe sur les services numériques, dite taxe GAFA, a suscité la colère des États-Unis qui a répondu en menaçant de taxer les importations de produits français. Cet outil adopté par la France est largement inspiré d'un projet européen qui n'avait pas abouti, lui. Alors que peut-on espérer de l'Union européenne? Est-ce qu'elle finira par s'accorder sur une taxe commune? La nouvelle commission en place depuis le 1er décembre en a-t-elle la volonté, les moyens? D'autres pays pourraient-ils suivre l'exemple français? Et où en est-on de la perspective d'une imposition internationale discutée en ce moment au sein de l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique? Si la taxe européenne est toujours en suspens, cela n'empêche pas Bruxelles de prendre des initiatives pour résister aux géants américains, comme on l'a vu en mars dernier avec cette amende infligée à Google, condamnée à verser plusieurs milliards d'euros pour pratiques illégales, sans oublier bien sûr l'instauration en 2016 du Règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui avait déjà été un signal fort. Pour parler de cette résistance de l'Union européenne vis-à-vis des géants du numérique, on a invité ce matin Anne Belon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politiste, chercheuse, post-doctorante à Orange Labs. À vos côtés, François Lévesque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes-vous économiste, professeur à l'école Mine Paris Tech, et puis vous aviez écrit, c'est il y a 2 ans, chez Odile Jacob, les habits neufs de la concurrence, et il en sera question évidemment de concurrence. D'abord peut-être un petit mot sur l'actualité récente, Anne Belon, François Lévesque, puisqu'au sommet de l'OTAN, vous l'aviez peut-être entendu, qui se tenait au début du mois de mai, Donald Trump était revenu sur cette question de la taxe GAFA, adoptée par le Parlement en juillet dernier. Il avait dit que c'était un différend mineur qu'on allait probablement réussir à surmonter, mais c'est comme à chaque fois avec Donald Trump, c'est un coup ça et puis un coup des grosses colères. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui des menaces de représailles? Est-ce qu'elles sont aujourd'hui écartées? Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Et plus globalement, quel est le niveau d'énervement actuel de l'administration américaine vis-à-vis de la France en particulier qui a pris cette décision l'été dernier? On va commencer avec vous, François Lévesque.
Le niveau d'énervement américain est relativement élevé, puisque il y a ces mesures de représailles qui ont été décidées. Alors, est-ce qu'elles vont être mises en œuvre? Est-ce que, de nouveau, le président des États-Unis va retourner sa veste, c'est-à-dire changer d'avis? On ne le sait pas. Il faut attendre.
Ça concerne une soixantaine de produits, sachant qu'on avait déjà des mesures de rétorsion, déjà des surtaxes qui ont été annoncées l'année dernière.
Oui, mais là, c'était plutôt contre l'Europe que contre la France directement. Et puis, surtout, le revirement, il se fait à l'OCDE. Vous avez parlé de l'OCDE, il y a des discussions entre plus de 100 pays pour faire en sorte qu'il y ait une taxe et un accord général de 160 pays pour taxer les géants du numérique. Et puis, les États-Unis étaient partie prenante et ils avaient dit « Ok, Dac, on n'est pas opposé, on est même favorable à ce jeu ». Et puis, il y a une semaine, Donald Trump a dit « Oui, mais finalement, à travers son ministre, a dit « Mais finalement, on serait d'accord pour une taxe décidée par l'OCDE, mais comme option. » C'est-à-dire que les entreprises puissent choisir cette nouvelle taxe si elles voient le jour un jour. Mais en revanche, elles ont l'option de ne pas le faire et de rester au statu quo. Donc, il a détruit en un tweet, des années de travail.
Comme souvent avec Donald Trump. On va revenir évidemment sur cette question particulière de la fiscalité dans un instant avec Francis Bloch par téléphone. Anne Belon, même question un peu générale. Quel est le niveau d'énervement là aujourd'hui de l'administration américaine?
Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir aussi les ambiguïtés de ces positions, parce que dans le cadre d'une guerre commerciale, oui, il y a un niveau d'énervement, mais il y a une partie que nous, on étudie beaucoup aussi en sciences politiques de mise en scène, en fait, des oppositions. Et puis, il y a aussi un travail de l'administration ou d'autres parties de l'administration contre les GAFA avec ces enquêtes qui sont faites sur leur position dominante pour éventuellement, alors je pense qu'on est vraiment très très loin d'un éventuel démantèlement, mais en tout cas...
La musique commence à monter
voilà,
hein, sur ce point.
On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. Les auditions de Mark Zuckerberg sont d'autres moments aussi devant le Congrès où il y a cette opposition, en tout cas des formes d'agacement contre les GAFA qui sont aussi mis en scène.
Vous faites référence en la matière à cette audition récente.
Très récente, oui.
Pour venir défendre sa monnaie numérique, sa crypto-monnaie, le Libra, et où il a fait face à des parlementaires qui étaient particulièrement virulents à son égard.
Et donc qui fait suite à d'autres auditions, là plus sur la protection des données personnelles des citoyens américains sur Facebook. Donc on voit bien, et je pense que c'est ce qui fait qu'on est dans une conjoncture assez intéressante, qu'il y a aussi des doubles jeux des administrations et que selon les instruments politiques qu'on mobilise, on n'est pas tout à fait sur les mêmes positions.
Oui, on a de nombreux bras de fer, c'est pour ça qu'on a intitulé cette semaine, géant du web, les nouveaux bras de fer. Alors s'agissant du bras de fer avec l'Union européenne dans le domaine de la fiscalité, on va accueillir tout de suite Francis Bloch, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'Université Paris 1 et à l'École d'économie de Paris et un spécialiste de la fiscalité du numérique. Alors on va revenir dans un instant évidemment sur les discussions en ce moment au sein de l'OCDE. Mais d'abord la première question, Francis Bloch. Cette taxe qui a été décidée l'été dernier par la France, qui a été votée, cette taxe sur les services numériques qu'on appelle taxe GAFA, elle va rapporter combien à l'État français? Première question.
Alors, les estimations sont aux alentours de 400 millions pour la première année, puis 600 millions pour l'année suivante, et puis une montée en puissance progressive. Mais ce ne sont que des estimations. Donc cette taxe, en fait, porte sur deux points très précis. C'est une taxe sur le chiffre d'affaires des GAFA, uniquement sur deux choses, qui sont les activités d'intermédiation. Donc ça, c'est par exemple Amazon Marketplace, donc Amazon qui sert d'intermédiaire et qui met en contact un acheteur avec d'autres vendeurs. Et la deuxième chose, c'est la publicité ciblée. Mmh. Et donc, c'est sur ces deux points-là qu'on va essayer d'estimer le chiffre d'affaires de ces GAFA et les taxer à hauteur de 3%.
Sachant que quand on dit estimer le chiffre d'affaires, en général, pour une entreprise classique, ça peut être assez simple. Pour une entreprise comme celle-ci, c'est extrêmement compliqué.
Ça me semble extrêmement compliqué pour prendre l'exemple de la publicité numérique, la publicité ciblée. Donc prenez Google, les contrats, si Peugeot décide de participer aux enchères de Google pour avoir une publicité ciblée sur un utilisateur, les contrats vont être faits avec la filiale de Google en Irlande. Et donc il va falloir que l'administration fiscale française puisse avoir accès à ces contrats en Irlande. Donc je pense que le mieux qu'on puisse avoir sont des estimations. Il va probablement y avoir des négociations, mais ça va être très difficile, effectivement, d'avoir des chiffres clairs.
En quelques mots, les entreprises concernées, c'est les GAFA, bien sûr, mais pas seulement.
Alors, c'est pas uniquement les GAFA. Donc, parmi les feuilles ont été calculées de telle façon que ça va essentiellement quand même concerner les GAFA américaines. Mais certaines entreprises françaises vont être impactées, dont en particulier Criteo, qui est un fleuron français du numérique, qui est une entreprise qui fait de la publicité ciblée dynamique et qui va donc elle aussi tomber sous cette nouvelle taxe de 3%.
Alors, Francis Bloch, il y a la taxe française, mais il y a peut-être demain, qui sait, une taxe internationale, puisqu'il y a au sein de l'OCDE des discussions en la matière. Il semblait que les États-Unis étaient tout à fait enclins, justement, à envisager de discuter. Elle était d'ailleurs à la table des négociations. Et puis, on a le sentiment que ces derniers temps, et François Lévesque le rappelait tout à l'heure, l'administration américaine a l'air beaucoup moins disposée à envisager une solution fiscale internationale au sein de l'OCDE. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut espérer ou pas avoir demain une imposition internationale sur les géants du numérique ? Parce que c'est ça la question. C'est ça qu'on discute.
Alors, moi, je suis plutôt optimiste. C'est-à-dire que j'avais interprété à un moment donné la position américaine comme étant une réponse de Donald Trump à Jeff Bezos et aux entreprises de la Silicon Valley. Donc, il y avait eu un assouplissement de la position américaine. Il y a un durcissement très récent. Il faut voir qu'à l'OCDE, les discussions prennent un temps considérable. Donc, on est là dans un contexte qui est un contexte de taxation, de non-double taxation des multinationales, qui est un contexte qui existe depuis le début du XXe siècle.
Alors ça, il faut nous expliquer ce que c'est la double taxation, de non-double taxation, parce qu'on ne le connaît pas.
Pardon.
Non, je vous en prie. Il faut éclairer les auditeurs.
L'idée, c'est qu'en fait, et ça se rapporte un petit peu à ce que disait Donald Trump, l'idée, c'est qu'une multinationale, il faut savoir où on peut taxer les profits des multinationales. Et dans un contexte d'impôt sur les sociétés, le profit de la multinationale ne peut pas être taxé deux fois par deux pays différents. Donc l'idée des règles de non-double taxation, c'est de partager entre les pays les profits des multinationales pour décider quelle est la part et l'assiette fiscale que chaque pays peut éventuellement taxer. Et il y a en fait deux étapes. La première étape, c'est déterminer quels sont les pays qui peuvent être autour de la table. Et là, les règles en fait datent des années 20. C'était la Société des Nations à Genève qui, à l'époque, était dépositaire de ces traités de non-double taxation. Et l'idée, c'est qu'il faut, aujourd'hui, pour qu'une entreprise puisse être taxée en France, qu'elle ait un établissement permanent en France. Et un établissement permanent, ça veut dire du personnel, des actifs, des actifs physiques, hein, des usines ou des entrepôts. Et donc, ce sont des règles qui sont en fait pas du tout satisfaites par les géants du numérique aujourd'hui. Et donc ça, c'est une première difficulté, c'est que la France n'a pas, selon cette règle d'établissement permanent, le droit de taxer les profits d'une entreprise du numérique. Et une fois qu'on a décidé quels étaient les pays qui pouvaient s'asseoir autour de la table, se pose une deuxième question qui est encore plus complexe, qui est de savoir comment partager ces profits entre les différents pays. Et donc c'est ça le problème essentiel sur lequel travaille l'OCDE.
Donc on a un double problème. On a un double problème. Et s'agissant du second, visiblement, il y a là encore une divergence entre la France et les États-Unis. La France qui prône une taxation sur la base du chiffre d'affaires comme elle l'a fait sur sa mouture nationale, alors que les États-Unis veulent pas entendre parler de cette option.
Absolument. Dans la France, c'est-à-dire tous les pays européens essayent d'imposer une taxation qui soit liée à l'endroit où la valeur est créée et disent que la valeur est créée chez les utilisateurs. Donc c'est le nombre d'utilisateurs, c'est la demande ou le marché qui doit déterminer cette règle de partage des profits. Les États-Unis ont une règle très différente, vont dire que la valeur est créée par exemple par l'algorithme, que tout ce qui est que la valeur de Google, c'est la qualité du service de recherche qu'elle permet, qui est lié à la qualité de l'algorithme, et que cet algorithme est créé par des chercheurs américains aux États-Unis, donc c'est là qu'est créée la valeur de Google. Donc on est dans une négociation difficile, et c'est celle-là qui va décider quelle est la règle de partage des profits.
Vous restez avec nous, mais je voudrais peut-être entendre nos invités ici en plateau. On va commencer avec vous, Anne Belon. Finalement, c'est normal qu'on impose les GAFA aux États-Unis, puisque c'est aux États-Unis qu'il y a la valeur ajoutée, c'est aux États-Unis qu'on fait les algorithmes, donc c'est tout à fait normal.
Alors, sauf que, non, c'est pas tout à fait normal. Et d'ailleurs, par exemple, Google a du personnel en France. Et ce qui joue aussi beaucoup dans l'optimisation fiscale de Google, c'est le transfert l'attribution de ses bénéfices à sa filiale irlandaise. Et donc, par exemple, Google paye à peine 17 millions d'euros d'impôts en France. Et à chaque fois, il y a eu des enquêtes du fisc pour essayer de dire, bah non, en fait, la valeur, elle est faite ici en France. Et ce sont en effet des négociations qui tiennent à ces pratiques, mais qui ne sont pas uniquement faites par les GAFA
de transfert. Qu'est-ce qu'elle paye aux États-Unis? Parce qu'il y a quelques semaines, c'était au début du mois, le responsable des affaires publiques de Facebook, qui s'appelle Nick Clegg, a signé une tribune dans Le Monde, dans laquelle il dit, les gens pensent toujours que les GAFA ne sont pas imposés. C'est absolument faux. D'ailleurs, regardez-nous, si vous faites une moyenne des impositions ces dernières années, on est à peu près à 20%, ce qui est la moyenne dans l'OCDE. Donc, faut arrêter de vouloir nous taxer alors qu'on paye déjà.
Alors, le montant de ce que payent les GAFA aux États-Unis, ça, je l'ignore. J'imagine que c'est pas pareil pour les différents. Mais après, les GAFA sont quand même passés maîtres dans l'art de l'optimisation fiscale. Et du fait de ces transferts, en fait, entre leurs différentes filiales en Europe, mais aussi dans d'autres pays, elles ont des taux d'imposition qui sont relativement faibles par rapport à d'autres multinationales.
François Lévesque.
Oui, en fait, il faut quand même distinguer au sein des GAFA, puisque vous avez Apple et Microsoft vendent des produits. Ils vendent des produits, donc, en tant que vendeurs, ils sont imposés en France avec, en fonction de...
Quand vous dites vendre des produits physiques.
Voilà, des produits physiques, voilà. Ouais. Et ils ont des acheteurs qui payent avec de l'argent. Alors que quand vous utilisez le moteur de recherche de Google, eh bien, le consommateur, lui, a un accès gratuit au moteur de recherche.
Oui, mais si vous prenez, par exemple, Netflix, ce sont des utilisateurs français qui payent avec de l'argent français. Pourtant, il n'y a pas d'établissement permanent. Comment est-ce qu'on fait? Elle échappe d'ailleurs, Netflix, à la taxe GAFA française.
Non, mais vous voyez qu'en termes de données, au moins, on aura les ventes qui sont réalisées d'abonnements par Netflix. Oui. Ou en tout cas, c'est possible d'avoir ces données. Oui. Donc, il y a une différence entre le consommateur accède aux biens gratuitement. Et donc là, ça va être très compliqué. C'est plus compliqué que lorsque les entreprises vendent des services, y compris Netflix, à travers un abonnement. Donc il faut quand même distinguer les deux types. Et de ce fait-là, le fait de vendre des services et de vendre des produits fait que l'échappement fiscal est plus compliqué que d'être purement numérique, avec un côté du marché gratuit, celui des consommateurs finaux, et un autre, évidemment, qui n'est pas gratuit, à travers les annonceurs qui sont l'essentiel des recettes de Facebook ou de Google.
Francis Bloch, alors j'ai entendu que vous nous disiez que vous étiez, vous, optimiste et que vous pensez qu'il y aura finalement bien un accord qui permettra de trouver une solution d'imposition internationale au sein de l'OCDE sur les services numériques. Mais faisons l'hypothèse inverse, qui n'est pas complètement improbable, hein, Francis Bloch, compte tenu du niveau d'opposition, en tout cas pour le moment, de l'administration américaine. Le cas échéant, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, que va faire l'Union européenne? Est-ce qu'on pourrait relancer le projet de taxe GAFA qui n'avait déjà pas abouti il y a quelque temps? Est-ce qu'on a une idée de la position aujourd'hui de la nouvelle commission d'Ursula von der Leyen sur ce sujet? Francis Bloch, que fera l'Europe si ça marche pas à l'OCDE?
Je pense que ce sera très difficile d'avoir une nouvelle initiative européenne. L'initiative avait été très forte, l'initiative portée par Bruno Le Maire avait été très forte. Il avait plus ou moins réussi à convaincre l'Allemagne de se joindre à l'initiative. Et pour finir, donc le projet était allé assez loin et puis avait capoté sur l'opposition de l'Irlande, du Luxembourg et des pays scandinaves. Donc je ne pense pas qu'il y ait une dynamique au sein de l'Europe aujourd'hui qui permette de reprendre ce projet. Donc il continue à y avoir une division assez forte entre l'Europe du Sud d'un côté et l'Europe du Nord de l'autre. Donc je pense pas. L'espoir que j'ai, c'est qu'en fait, la taxe unilatérale qui est décidée par la France, et qui sera probablement suivie par des taxes d'autres pays d'Europe du Sud, enclenchera une dynamique qui fera que petit à petit, on arrivera au niveau de l'OCDE à faire avancer les choses. Mais en Europe, avec la règle d'unanimité pour toutes les décisions en matière fiscale, je pense qu'il y a eu une fenêtre d'opportunité qui s'est refermée et que ce sera très difficile de relancer au niveau européen cette taxe GAFA.
Sachant qu'on a à l'intérieur de l'Union européenne quelques projets qui sont encore dans les tuyaux, qui pourraient régler la chose, en tout cas à l'échelle des pays en question. La Grande-Bretagne, je crois, a un projet sur la table. Il doit y avoir d'autres pays, je crois l'Espagne, mais je ne suis pas certain.
L'Espagne et l'Italie.
Voilà.
Oui, mais c'est la règle de l'unanimité. À l'égard de pays qui ont des intérêts divergents. Donc il faut l'accord du Luxembourg, donc il faut l'accord de l'Irlande, et c'est pas dans leur intérêt.
Oui, et si on n'y arrive pas, on aura peut-être une superposition de taxes nationales.
Voilà, mais donc l'unanimité, comment le processus peut être bloqué. Il l'a été par Malte et Chypre, voilà. Donc il suffit que Malte et Chypre s'opposent, le Luxembourg aussi. Et puis la Suède, et la Suède s'y oppose parce qu'ils ont ils ont une grande star qui s'appelle Spotify, et ils veulent protéger Spotify. Donc il faut considérer que la fenêtre est fermée et qu'il n'y aura pas de nouvelles initiatives connaissant le succès au niveau de l'Union européenne.
Merci beaucoup en tout cas Francis Bloch d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Paris 1 et à l'École d'économie de Paris. On va poursuivre avec vous Anne Bellon et vous François Lévesque. On va parler de données personnelles, on reviendra sur le RGPD, mais pour l'heure, voyons ce qu'il en est du côté de la question de la concurrence. François Lévesque, vous avez écrit un ouvrage chez Odile Jacob il y a 2 ans sur la concurrence, les habits neufs de la concurrence, les entreprises qui innovent et qui raflent tout. J'évoquais tout à l'heure dans mon chapeau ces amendes qu'il y a eu de la part de la Commission européenne, notamment par exemple l'amende de 4,3 milliards d'euros pour pratique illégale sur les smartphones et l'application Android. Qu'est-ce qui pose problème de façon générale, François Lévesque? On a parlé de la question de la fiscalité. En quoi, au fond, les GAFA ont-elles des pratiques illégales et posent des soucis sur la question de la concurrence ici en Europe?
Eh bien, comme ces entreprises bénéficient d'une position dominante, d'une position de monopole extrêmement forte, eh bien, il y a un certain nombre de pratiques qui leur sont interdites. Une entreprise qui n'a pas de position de monopole, eh bien, elle peut passer des contrats d'exclusivité avec d'autres entreprises, elle peut s'opposer à ce que un distributeur achète son produit. Il y a une beaucoup plus grande liberté de pratique, de comportement, de stratégie des entreprises qui n'ont pas de position dominante par rapport à des entreprises qui ont une position dominante. Donc, elles sont contraintes du fait de cette position dominante sur le marché. Alors, lorsqu'elles abusent de leur position dominante, c'est là que le droit de la concurrence peut intervenir et donc va condamner un certain nombre de pratiques, ce qui a été fait dans le cadre de Google. Google utilisait sa position de monopole dans le marché du moteur de recherche pour obtenir une position de monopole sur les services comparateurs de prix. Google a été condamné et sanctionné par une amende de plusieurs milliards parce qu'il a abusé de sa position de monopole. Il avait une position de monopole et il l'a utilisée, une espèce d'effet de levier, pour acquérir une nouvelle position de monopole. Et c'est sanctionnable et illicite du point de vue du droit de la concurrence européen.
Est-ce que c'est sa faute si elle est en position de monopole? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas, dans le domaine du numérique, quelque chose qui pousse vers une forme de concentration industrielle? Et je vous poserai la question à Anne Bellon parce que je sais que vous avez une opinion sur ce sujet-là. Mais au fond, est-ce que c'est sa faute? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, de fait, par nature, dans le domaine du numérique, une tendance à aller vers de moins en moins d'acteurs et donc vers cette position dominante que vous avez?
Alors, la position dominante n'est absolument pas condamnée par le droit de la concurrence. Et en l'occurrence, si Google a obtenu détient aujourd'hui une position dominante, eh bien, c'est par le mérite et aussi sans doute par la chance. Et donc, on a affaire à des entreprises qui, parce qu'elles ont été chanceuses dans la mesure où, au bon moment, elles se sont placées sur le marché et puis elles ont commencé à lancer cet effet boule de neige qui fait que vous avez le premier client et du coup, ça attire d'autres clients et ça va attirer d'autres mondes. Et finalement, c'est ce phénomène du gagnant qui rafle tout. Elles ont eu de la chance et elles ont eu aussi du mérite. Et la position dominante, le droit de la concurrence, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine ou au Royaume-Uni, qui est en train de quitter l'Europe, eh bien, n'est pas condamnable. Et heureusement, parce que ce qui conduit les entreprises, ce qui incite les entreprises à innover, à augmenter leur part de marché, eh bien, c'est le profit futur qu'elles auront. Donc, le mérite, obtenir une position dominante par le mérite n'est absolument pas condamné, et fort heureusement.
Voilà une vision bien schumpeterienne de la chose. Anne Bellon.
Là, je souscris vraiment à ce que vous venez de dire, parce que je pense qu'il y a une confusion parfois dans les discours politiques entre la concurrence, le droit de la concurrence qui est précisément encadré et qui en effet ne condamne pas les positions dominantes, mais en condamne des abus, c'est-à-dire des pratiques qui sont interdites du fait de ce droit de la concurrence, et la position hégémonique des GAFA qui fait concurrence en effet à certaines entreprises, et on l'a beaucoup, enfin moi je l'ai beaucoup étudié dans le cadre de l'arrivée de Netflix en France. Et là je pense qu'il y a des confusions entre deux politiques qui sont, un, la politique de la concurrence qui est très précisément encadrée par un certain droit, et la politique industrielle, où en fait on a beaucoup cette idée que voilà, que l'hégémonie des GAFA empêche à certains acteurs européens de se développer. Or, c'est pas du tout les mêmes outils politiques. Et je pense que parfois, oui, alors, le discours politique entretient,
cette confusion. Mais alors, justement, sur la question, par exemple, de la concurrence, il y a parfois cette idée du côté de l'Union européenne qu'on aurait un droit de la concurrence qui serait peut-être appliqué de façon trop rigoureuse, voire carrément rigoriste. C'est l'exemple, c'est ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps sur la fusion refusée entre Alstom et Siemens. D'aucuns ont dit c'est une catastrophe parce qu'on a là une opportunité de créer un champion européen qui va pouvoir aller se battre sur le marché international, donc il faut absolument revoir ce droit de la concurrence. Est-ce que, et s'agissant en particulier du secteur du numérique, est-ce que vous pensez qu'effectivement il y a un souci au niveau du droit de la concurrence qui, par ailleurs, a une conséquence directe, qui est qu'on n'arrive pas à faire émerger des géants du numérique en capacité de rivaliser avec les géants américains et même les géants chinois qui, eux, par contre, se développent. Anne Belon et ensuite François Lévesque. Anne Belon.
Je pense que c'est un peu aller loin de dire que c'est à cause du droit de la concurrence. En fait, ce qui est intéressant, c'est, et ce qui nous intéresse, nous, en tout cas, les politistes, c'est en fait les usages politiques de ce droit de la concurrence. Et en effet, comment, voilà, parfois on va le mettre en cause, mais de fait, c'est quand même le même droit qui s'applique et aux GAFA et aux champions européens. Et je pense que là, il y a d'autres outils politiques qu'on a négligés et qui auraient permis l'émergence de champions européens.
François Lévesque.
Oui, contrairement à ce qui est défendu et avancé par beaucoup de commentateurs, l'application du droit européen de la concurrence n'a jamais entravé et n'entrave pas la création ou l'émergence de champions européens, qu'ils soient dans le numérique ou ailleurs. Les principales causes de l'absence de champions européens sont la fragmentation du marché européen. Il y a le marché unique, mais les consommateurs ont des préférences différentes, il y a des normes qui sont différentes, etc. D'autre part, il y a un secteur financier et de capital risque qui n'est absolument pas comparable avec les États-Unis. Donc les causes d'absence de champions dans le domaine numérique en particulier ne sont pas à rechercher du côté de l'application du droit de la concurrence. En revanche, il n'y a pas de doute que là, l'Union européenne est relativement faible du côté de la politique industrielle et du côté de la politique du commerce extérieur. Et donc,
c'est là qu'il faut aller chercher.
Voilà. Donc il n'y a pas de politique industrielle européenne. Il y a des politiques industrielles nationales. Et la politique européenne en termes de commerce extérieur est extrêmement pusillanime jusqu'à maintenant, notamment comparée à la politique extérieure de commerce extérieur américaine.
Donc il n'est pas utile de réformer la politique de concurrence européenne. On ne touche pas.
Le numérique posant quand même un certain nombre de problèmes d'analyse, de mise en évidence de preuves, d'abus de position dominante. Donc à la marge, le droit de la concurrence va être réformé pour tenir compte des particularités de la technique et des modèles d'affaires numériques. Mais c'est une modification à la marge et qui n'a pas du tout comme objectif un objectif de politique industrielle, de protectionnisme ou un objectif tout simplement de création de champions.
On va parler évidemment de la question de la protection des données dans un instant, Anne Belon, mais je voudrais poursuivre un tout petit peu sur ce point-là, sur cette question de la concurrence. Votre livre, François Lévesque, il avait notamment pour objet de regarder si aujourd'hui, dans le domaine du numérique, la concurrence est plus forte ou moins forte qu'avant. C'est pas une question à laquelle on répond si facilement que ça. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui?
Il y a un faisceau de présomptions très très fort pour dire que la concurrence aux États-Unis dans le numérique et dans d'autres secteurs s'est érodée considérablement. Il y a des profits plus élevés, une évolution vers l'augmentation de profits, vers l'augmentation de la taille, vers l'augmentation d'un grand nombre d'autres indicateurs. Et donc aux États-Unis, la concurrence s'essouffle et c'est bien montré aujourd'hui. En Europe, c'est pas le cas. En revanche, si on prend uniquement le secteur du numérique, il y a une domination d'un petit nombre d'acteurs qui ont acquis cette position par le mérite et par la chance. Et la question qui s'ouvre aujourd'hui, c'est est-ce que ces positions dominantes, est-ce que ces acteurs seront encore là dans 20 ans? On a vu Nokia disparaître, on a vu le BlackBerry disparaître, on voit des entreprises qui ont des positions dominantes presque sur l'ensemble de la planète et qui disparaissent. Est-ce que aujourd'hui, ou plutôt demain, est-ce qu'on ne va pas avoir un changement d'histoire? C'est-à-dire, est-ce qu'en fait ces entreprises hyper puissantes, est-ce que dans 20 ans on aura toujours Amazon, est-ce qu'on aura toujours Google? Eh bien, la réponse, c'est on ne sait pas. Il est possible que ces entreprises aient une telle puissance, de telles barrières à l'entrée, de telles capacités en R&D, de telles marges de manœuvre, que finalement Amazon et Netflix seront peut-être là dans 15 ans, à moins que les Chinois et leurs concurrents chinois les aient affrontés directement.
Et oui, parce qu'il y a évidemment ce phénomène qu'on connaît bien, qui est que plus on a de concentration sur un secteur, sur un marché, et moins l'innovation est forte. C'est en tout cas ce que nous dit l'histoire économique. Anne Bellon.
Alors moi, je pense que quand même, ce sont des entreprises qui ont assis leur... Enfin, qui ont réussi à asseoir leur position dominante. Et surtout, là, on voit qu'elles s'engagent sur de nouveaux marchés parce qu'elles ont des capacités de recherche et développement qui sont énormes. Et donc, elles viennent justement sur les marchés de l'intelligence artificielle qui seront peut-être, en fait, les ruptures technologiques de demain, que là aussi, elles prennent de l'avance. Donc, cette position dominante qu'elles occupent aujourd'hui leur permet aussi, en fait, d'asseoir des positions dominantes futures sur d'autres créneaux, d'autres activités économiques liées aux technologies.
On est avec vous, Anne Bellon, et vous, François Lévesque, dans cette semaine consacrée aux géants du web, les nouveaux bras de fer, fiscalité, données personnelles, libre concurrence, l'Union européenne en résistance. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et parlons justement de données personnelles. Anne Bellon, en 2016, l'Union européenne avait adopté ce règlement général sur la protection des données, RGPD. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler en quelques mots l'objet, le principe, la philosophie de ce texte, et puis on va regarder le bilan qu'on peut en faire aujourd'hui.
Alors le RGPD, c'est un nouveau règlement en fait qui vient mettre à jour la régulation en vigueur sur la protection des données personnelles qui datait de 1995 dans l'Union européenne. Il a connu une gestation très lente puisqu'il a été négocié entre 2012 et 2016, puis finalement adopté par le Parlement européen, et c'est une gestation qui a vu une action des lobbies du numérique sans précédent pour s'opposer à ces nouvelles règles. Il introduit un certain nombre de principes nouveaux qui constituent des formes de rupture, et notamment celle du consentement explicite, c'est-à-dire que désormais, chaque entreprise numérique doit recueillir notre consentement explicite quant à la collecte de nos données sur Internet, ce qui fait que depuis mai, vous voyez apparaître, dès que vous vous connectez, enfin, dès que vous cliquez sur la page d'un site web, un petit pop-up qui vous dit « Est-ce que vous acceptez les collectes de données qu'on réalise, alors soit à des fins de performance du site, soit à des fins publicitaires, etc. » Donc ça, ce sont ces principales évolutions.
Ça, c'est pour la théorie. Est-ce que ce consentement, il est vraiment explicite, toujours ?
Alors là,
c'est pas votre avis à vous.
Non, je pense que on voit déjà. Il faut voir aussi comment les pratiques évoluent. Hein. C'est une entrée en vigueur qui date d'il y a à peine un an. Donc il faut voir comment aussi la sensibilisation du public va évoluer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et même des personnes très conscientisées comme je le suis, parfois. Ne prennent pas le temps de bien lire tout ce qui est fait de leurs données personnelles. Et puis, il y a le volet sanctions, c'est-à-dire comment les autorités de protection des données personnelles réussissent vraiment à évaluer, en fait, la manière dont les entreprises recueillent notre consentement explicite et mettent en œuvre, en fait, ce RGPD. Et là, on voit que depuis cette amende symbolique infligée à Google par la CNIL en janvier 2019, qui était quand même de 50 millions, donc là aussi qui présentait une vraie rupture par rapport au montant des amendes jusqu'alors infligées. En fait, il y a eu assez peu de sanctions similaires et surtout qui ne concernaient pas les autres GAFA.
La décision, pardon, avait été contestée devant le Conseil d'État, non ?
Exactement.
On en est où là ?
C'est toujours en cours, donc potentiellement même elle sera remise en cause.
Donc pour l'instant, on n'a pas payé ?
Non.
D'accord, donc pour l'instant, il n'y a pas eu de sanctions ?
Après, c'est tout de même un signal fort. Enfin, la sanction a quand même été une prise de décision par la CNIL contre des manquements forts de Google. Et là, ils se sont concentrés sur en fait le recueil du consentement lors de la configuration d'un téléphone portable Android.
Sauf qu'il n'y a pas eu besoin de payer.
Je pense que l'argent est séquestré.
La sanction n'est pas encore confirmée, mais la décision est prise.
Cette amende de la CNIL, est-ce que c'est une conséquence directe du RGPD ?
Oui, puisque en fait, elle résulte d'une plainte collective, et ça c'est aussi une innovation du RGPD, c'est qu'elle autorise le dépôt de plaintes collectives. Et énormément d'associations se sont emparées de cette possibilité et ont déposé des plaintes dans toutes les autorités de protection des données personnelles européennes, sachant qu'un très très grand nombre de plaintes arrivent sur les bureaux de l'autorité irlandaise, puisque c'est dans ce pays que se situent les sièges légaux de la plupart des entreprises numériques.
Mais j'ai lu par exemple qu'il y a une association qui est baptisée iBoycott qui cherche à faire condamner Amazon pour évasion fiscale en s'appuyant par ailleurs sur un article du Code civil de 1804, ai-je lu hier. Il se trouve que le 12 décembre dernier, cette association a proposé aux citoyens de prendre part à cette action collective de cette association par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne. Vous sentez, Anne Belon, vous intéressez à ces questions depuis des années, il y a vraiment une conscientisation vis-à-vis de ces questions du numérique. Vous avez l'impression que ça devient un sujet, alors peut-être pas prioritaire parce qu'il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais que ça monte dans les préoccupations des citoyens.
Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est plus forte depuis l'adoption du RGPD. Après, je pense que nous sommes des utilisateurs contraints et qu'en fait, aujourd'hui, une des questions qui se pose, c'est que les modèles économiques du numérique sont tels que pour avoir accès à Facebook, à Google, etc., on entre dans une forme d'économie qui est une économie de la donnée et qui se base sur la collecte de nos données. Et là, on touche des questions qui sont beaucoup plus générales. Mais au fond, aujourd'hui, quel utilisateur fut-il conscientisé ? Peut-il refuser en fait de rentrer dans cette économie qui gratuite et faussement gratuite puisqu'en fait elle se nourrit des données personnelles, des traces numériques que l'on dépose par notre navigation et notre activité en ligne.
François Lévesque, alors 50 millions, les 50 millions évoqués par Anne Belon en janvier dernier, donc cette sanction prononcée par la CNIL, c'est évidemment énorme. Si c'est vous ou moi qui dois la payer, on pourra tout simplement pas, mais enfin pour des acteurs comme Google, Amazon, Facebook, Apple, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau. Quel effet ça peut avoir ?
Oui, c'est très peu, mais ceci dit, l'intérêt des amendes, c'est d'envoyer un signal aux autres. C'est pas simplement punir
aux autres entreprises
qui appliquent mal le règlement pour la protection des données personnelles. Et de la même façon, même s'il s'agit de quelques milliards de sanctions, d'amendes imposées par la Commission européenne à Google, ces quelques milliards ne représentent pas grand-chose. Mais en revanche, ils envoient un signal aux autres entreprises, y compris du numérique, ne feraient pas suffisamment attention, voire volontairement chercheraient à abuser sur tel et tel segment de marché de leur position dominante. Donc l'amende produit des effets dissuasifs, alors en partie, et donc c'est ça qui est plutôt important, c'est l'effet vis-à-vis des autres et des autres entreprises. Je pourrais être condamné, pour mon image de marque, c'est pas génial non plus. Je pense que en termes de perte de valeur d'image de marque, ça vaut plus de 50 millions. Donc c'est ça qu'il faut regarder.
Il faut aussi préciser que les autorités peuvent aller beaucoup plus loin. Enfin, le RGPD estime que les amendes, les sanctions peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui est
mondial.
Voilà, ce qui est énorme. Enfin, il faut savoir qu'avant, la CNIL était limitée dans les sanctions qu'elle pouvait imposer à peine 150 000 euros. Enfin, ce qui avait d'ailleurs été une amende infligée à Facebook. Donc, on voit là qu'il y a quand même, on a ouvert les possibilités de sanctions pour ces autorités de protection des données personnelles.
François Lévesque dit mondial. Ça veut dire qu'il y a une dimension extraterritoriale dans le RGPD ?
Exactement.
Donc, ce qu'on reproche si souvent à la loi américaine ?
Non, ça c'est une dimension très forte du RGPD, c'est qu'il a une applicabilité extraterritoriale, ce qui en fait permet de protéger les données des citoyens européens, même quand l'entreprise est basée dans un pays qui n'est pas européen.
Est-ce que ce texte est parfait, Anne Belon, ou est-ce qu'il vous semble qu'il y aurait peut-être des choses à améliorer et peut-être même, apporter un texte complémentaire à celui qui existe déjà depuis 2016?
Alors, je pense qu'aucun texte n'est vraiment parfait. Je pense que l'enjeu est surtout dans son applicabilité, en fait. Et là, il est encore trop tôt pour se prononcer complètement, puisqu'il y a énormément, en fait, d'affaires, d'enquêtes qui sont en cours auprès de l'autorité irlandaise. Après, c'est aussi intéressant de voir quels ont été les effets de ce texte, puisqu'il y a des réglementations similaires qui ont été adoptées ou qui sont discutées dans d'autres pays. Par exemple, la Californie a pris le modèle du RGPD, même si elle a adopté un texte de protection des données des consommateurs un peu moins restrictif. Mais on voit qu'il a des effets politiques qui dépassent en fait le seul cadre européen. Et là, je pense que c'est aussi une des réussites de ce texte. Il faut savoir que la négociation était quand même très très mal partie et que, au vu des efforts de lobbying du côté des géants du net, on est quand même arrivé à des principes qui sont forts et qui transforment complètement le droit de la protection des données personnelles.
Ce n'est pas si souvent en Europe, donc quand ça arrive, soulignons-le. François Lévesque, vous voulez réagir?
Oui, et ce qui me frappe, c'est aussi que nous sommes paresseux et impatients. Lorsque j'arrive sur un site que je n'avais jamais visité auparavant, eh bien, je peux soit se dire d'accepter, soit, eh bien, je dois entrer sur une page du site qui me demande, avec un menu, est-ce que j'accepte ci, est-ce que je rejette ça? Et très souvent, et je ne pense pas être le seul, très souvent, pour de mauvaises raisons d'impatience et de paresse, j'accepte, sans passer les 10 secondes ou les 30 secondes qui seraient nécessaires pour que je fasse véritablement mon choix. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de l'information tout de suite. Mais cette réglementation, effectivement, elle a beaucoup de mérite. Il faut la prendre comme un premier pas. Ça va être un travail de longue haleine pour que les citoyens prennent conscience que leurs données peuvent être utilisées contrairement à leur intérêt et à leurs souhaits. C'est un peu comme les conditions d'utilisation. J'avais bien aimé, quelqu'un s'était mis à voir combien de temps il fallait lire les conditions d'utilisation d'Instagram. Eh bien, les conditions d'utilisation d'Instagram, il vous faut 86 minutes pour les lire. Donc vous voyez, tous les règlements qui vont contribuer à faire en sorte que les entreprises n'utilisent pas des biais comportementaux, en fait, ne s'appuient pas sur notre trop grande paresse et notre trop grande impatience pour nous faire avaler des couleuvres, eh bien, ça va dans le bon sens.
Mais alors, c'est une vraie question, ça, parce que personne ne lit 86 minutes. Personne ne va passer ce temps pour lire justement ce texte-là. Alors finalement, à quoi ça sert, Anne Belon ?
Moi j'ajouterais, nous sommes paresseux, mais nous sommes aussi parfois un peu contraints justement par la longueur de ces textes. Et les entreprises ont parfois une créativité assez géniale pour rendre tous ces dispositifs de recueil du consentement absolument faramineux, laborieux, et pour en fait recueillir une forme de consentement par défaut. D'où l'importance de la notion d'explicite. Et en fait, c'est ce travail qui est central dans l'activité des autorités de protection des données personnelles, c'est qu'elles vont essayer d'évaluer, et c'est pas toujours très simple, dans quelle mesure, si le texte est trop long, si le dispositif est trop complexe, ce consentement n'est pas véritablement explicite, ou s'il nous empêche d'accéder à tel service. Et il faut savoir qu'il y a même, en fait, si on lit tout de même ces recueils de consentement, il y a encore beaucoup de sites qui vous empêchent de désactiver certains recueils de données parce qu'ils seraient nécessaires au bon fonctionnement du site. Donc en plus, rien que sur votre capacité à jouer sur tous les paramètres, il y a encore beaucoup de progrès à faire.
François Lévesque, encore un mot avant de partir du côté de l'Inde.
Oui, mais donc, d'une part, il y a un progrès, puisque avant c'était par défaut, c'est-à-dire que il fallait chercher dans le site web où était l'endroit pour indiquer ses préférences en matière de données. Et d'autre part, il y a des sites que l'on visite très régulièrement. Et ces sites que l'on visite très régulièrement, eh bien là, ça vaut le coup de faire l'effort et de passer quelques minutes pour prendre soin de la façon dont ces données vont être utilisées.
Allez, direction l'Inde, parce qu'en Inde aussi, on est préoccupé par cet impact des géants du digital. Et là-bas aussi, on essaye de mettre des choses en place pour protéger les données personnelles des utilisateurs, pour imposer aussi une fiscalité à laquelle ils échappent trop souvent. En 2015, Mark Zuckerberg avait proposé de fournir à l'Inde son service Free Basics, offrant un accès gratuit mais limité au web, au nom de l'égalité d'accès à cette nouvelle technologie. Son mot d'ordre à l'époque, c'était « il vaut mieux un peu d'Internet que pas d'Internet du tout », mais bien sûr, les utilisateurs devaient se connecter à partir de Facebook et ne pouvaient visiter qu'un certain nombre de sites Internet choisis par l'entreprise, bien sûr. Et c'est à partir de là que les inquiétudes indiennes à l'égard des géants américains du numérique vont s'accentuer. C'est ce que nous explique en particulier Parminder Jet Singh, qui est directeur exécutif de l'association indienne IT for Change, qui est une organisation qui vise à défendre le principe d'un numérique au service de tous. Il a été conseiller auprès des Nations Unies sur la gouvernance internationale d'Internet. Il est au micro de Bertille Bourdon.
Some history of activism around internet issues, which
jusqu'en 2015, l'opposition était limitée au milieu spécialisé dans le développement des techniques d'information, de communication, de l'espionnage et de la surveillance. Ce n'était pas une prise de conscience collective. Les gens pensaient qu'Internet était une très bonne invention où l'on trouvait d'excellents services gratuits. À cette époque, avec des affaires comme Snowden, on commence à discuter de la surveillance, du fait que le pouvoir est entre les mains de quelques géants et donc de quelques pays. Mais la véritable prise de conscience en Inde émerge lorsque Facebook décide de lancer ses Free Basics. Mark Zuckerberg avait sous-estimé notre conscience politique. Elle est très avancée car nous sommes une démocratie depuis 1947, depuis l'indépendance. Mark Zuckerberg a mis des affiches partout, notamment près des aéroports. Elle disait que les Free Basics de Facebook allaient lutter contre la pauvreté, contre les problèmes de développement, etc. Ça leur a coûté très cher car ça a permis aux organisations déjà impliquées de lancer un vaste mouvement contre les géants qui veulent décider de ce qu'on fait sur Internet. Avec Free Basics, Facebook ciblait les plus pauvres en leur offrant Internet gratuitement. Au départ, le mouvement est né dans les classes moyennes, chez les gens qui n'étaient pas la cible de Facebook. Très rapidement, il a été soutenu par de nombreux leaders politiques, le parti de l'opposition et des grandes stars de Bollywood. Des humoristes faisaient des blagues là-dessus. Il y a eu des clips. C'était la première grande révolte contre un géant du numérique. Un an plus tard, notre autorité de régulation des télécoms a interdit toute forme de discrimination et d'interférence dans le traitement du contenu en ligne et a prohibé des vitesses de connexion qui variaient en fonction du contenu. Elle a aussi établi des règles sur la neutralité du net. Pour l'autorité de régulation des télécommunications, l'accès doit être le même pour tout le monde. C'est bien la première caractéristique d'Internet, comme pour le téléphone. En plus, Internet est censé être un espace gratuit, révolutionnaire. Il faut protéger cet esprit. Internet connecte directement deux utilisateurs. On ne peut pas avoir quelqu'un au milieu qui contrôle qui a accès à quoi.
Un autre aspect de la défense de cette souveraineté passe par des taxes spécifiques au milieu du numérique. Par exemple, en 2016, le gouvernement indien vote une taxe d'égalisation. Est-ce que c'est un ressort pour faire payer des impôts à ces entreprises étrangères ?
Cette taxe est apparue un an après la campagne Save the Internet, quand on s'interrogeait sur l'espionnage des données par les géants du numérique et leur utilisation éventuelle par les États, ce qui pose des problèmes politiques et de droits civiques. Mais surtout, ces entreprises gagnent beaucoup d'argent dans notre pays et ne paient pas d'impôts car elles ne sont pas installées sur place. C'est pour ça que l'on a créé la taxe d'égalisation de 6% pour les transactions business to business, d'abord sur la publicité. Si la somme dépasse une certaine limite, on retient 6%. On l'appelle aussi la Google Tax. En Europe, en France, je crois qu'on a envisagé des mesures similaires. Les compagnies étrangères ont estimé que cette mesure était injuste, mais sans plus. Les vraies pressions sont apparues quand le gouvernement indien a pris des mesures économiques sur la localisation des données, contre la domination d'Amazon sur les plateformes et sur le partage des données personnelles. Cette taxe d'égalisation, c'est la première mesure économique prise par le gouvernement indien. Au départ, c'est juste un impôt sur la publicité. Jusqu'en 2014-2015, la domination de la Silicon Valley dans les secteurs de l'information et de la communication, Google, Facebook, les réseaux sociaux, Twitter, concernait le secteur virtuel. Depuis, on a vu croître les secteurs physiques. Amazon, puis Walmart ont dépassé le premier site indien de commerce en ligne, Flipkart. Ils ont dominé le marché des transactions, des gens qui achètent et qui vendent. Il y avait Uber aussi. Les entrepreneurs indiens étaient furieux contre les étrangers qui cassaient les prix et les poussaient à la ruine. Les agences de sécurité ont alerté sur le fait que les données sur notre comportement en ligne se propagent à l'étranger sans qu'on puisse les contrôler. Devant ces problèmes économiques, personnels et politiques, le gouvernement indien a dû bouger. Ils ont décidé que certaines données devaient rester en Inde. La Banque centrale indienne a établi que les données financières seraient stockées sur place. Les États-Unis étaient furieux, mais cette règle est désormais en vigueur. Le monde de la finance doit conserver les données en Inde. Sur la localisation des données, d'autres secteurs sont concernés, mais la pression est immense. Il y a un projet de loi sur le commerce en ligne qui exige que les sites extérieurs partagent leurs données avec les sites indiens afin de favoriser l'économie nationale. Les réactions ont été nombreuses de la part de ces sociétés. Leurs dirigeants sont venus à maintes reprises pour obliger le gouvernement à reculer. Cette semaine, la loi sur la protection des données personnelles contient des éléments sur la localisation. En fait, l'Inde est de plus en plus inquiète. On fait des pas en avant, des pas en arrière. Le projet de loi sur la protection des données personnelles a été affaibli. L'Inde essaie de faire beaucoup de choses, mais on doit faire face à des pressions. Heureusement, les milieux politiques indiens sont de plus en plus sensibles à la protection de leur industrie numérique.
En 2015, pendant la contestation du service Free Basics de Facebook, Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Inde et propriétaire de Reliance Industries, qui était alors une des plus importantes entreprises de télécom indienne, avait parlé de colonisation numérique. Est-ce que cette notion de colonisation numérique est importante dans la prise de décision du gouvernement indien ?
Yes, digital colonization is a thinking which is
Oui, des activistes numériques, comme nous utilisons aussi le concept de colonisation digitale. Mukesh Ambani et les entreprises indiennes l'utilisent aussi. Bien sûr, quand ça vient de lui, cela a plus d'effet sur le gouvernement. En Inde, on entend aussi que les industries locales peuvent être aussi nuisibles que les industries étrangères, mais au moins, si l'entreprise est indienne, on peut imposer des règles. Oui, c'est un sujet aux dimensions multiples.
The colonization made a difference. Yes, it did.
I pay the tax for my sins. I pay the tax for my.
Voilà, on avait à l'instant Parminder Jet Singh, directeur exécutif de l'association indienne IT for Change, au micro de Bertie Bourdon. Un grand merci à nos deux invités qui étaient avec nous ce matin, Anne Belon et François Lévesque, qui nous ont éclairés sur ces enjeux liés aux géants du web, les nouveaux bras de fer. Aujourd'hui, on parlait de l'Union européenne. Je dois rappeler, François Lévesque, que vous êtes auteur, vous, d'un ouvrage qui était paru chez Odile Jacob, Les habits neufs de la concurrence, ces entreprises qui innovent et qui raflent tout. On mettra évidemment ça sur la page de Culture Monde. Vous, Anne Belon, c'est peut-être pour bientôt l'ouvrage, on verra. On prend date dans un très court instant. C'est 11h53 minutes. C'est Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Brice Couturier qu'on retrouve aujourd'hui par téléphone pour des raisons évidemment de problèmes de transport. Bonjour Brice.
Oui, je vous prie de m'en excuser, Florian.
Je vous en prie. Alors qu'est-ce que le capitalisme de connivence et quels sont ses inconvénients ? Voilà la question avec laquelle vous allez commencer.
Ben, l'expression crony capitalism, capitalisme de copinage, de connivence, donc c'est florès en anglais. Elle désigne un système dans lequel des acteurs économiques parviennent à nouer avec certains décideurs politiques des liens étroits afin de bénéficier de rentes de situation. Ces connexions permettent de réaliser à l'abri de l'État de substantiels profits qui sont ensuite partagés sous forme de pots de vin, au détriment des concurrents et bien sûr de l'intérêt général. L'ancien ministre de l'économie turque, Kemal Derviş, rencontre ce mois-ci sur le site Project Syndicate de trois livres portant sur ce crony capitalism. Un ouvrage collectif dû à des économistes arabes analyse le phénomène au Moyen-Orient. Ses auteurs cherchent à évaluer non seulement l'ampleur du phénomène pays par pays, mais ses effets mesurables sur leurs performances économiques. Le second, dû à l'économiste suédois Anders Haslund se penche sur le cas de la Russie. Il tente de décrypter le système, décrypter le système politico-mafieux construit et exploité par Poutine en 20 ans de pouvoir. Et puis le troisième livre, il est dû à Ming-Hsing Pei, et cet auteur se penche, lui, sur le modèle chinois. Mais Kemal Dervis commence par définir les deux modèles de capitalisme qui, à ses yeux, peuvent définir les rôles respectifs de l'État dans le fonctionnement de l'économie. Vous avez le capitalisme de marché et le capitalisme d'État. On dirait que personne ne sait plus à quoi pouvait bien ressembler le socialisme. Mais passons. Le capitalisme de marché à l'occidental, écrit Dervis, est généralement défini comme un système dans lequel interagissent de nombreux acteurs économiques en concurrence entre eux sur des marchés décentralisés. Le rôle de l'État s'y limite en théorie à faire respecter les droits de propriété, à réguler les marchés, à faire respecter la concurrence et puis bien sûr à fournir les services publics en les finançant par des taxes et des impôts. Dans le capitalisme d'État, celui-ci oriente les investissements vers les activités qui lui semblent prioritaires, il contrôle étroitement l'activité des sociétés privées et peut même les diriger directement en se rendant propriétaire.
Et le risque de connivence est plus élevé dans le second cas que dans le premier, Brice.
Ben oui, parce que plus le niveau d'intervention de l'État dans la vie économique est important, plus les occasions de s'enrichir grâce aux connexions nouées dans ces hautes sphères sont nombreuses. Mais il n'y a là aucune fatalité. La montée en puissance des dragons asiatiques s'est opérée sous la direction des États et cependant, chacun a su y rester à sa place. Le capitalisme de connivence est un phénomène courant dans les premiers stades du développement d'une économie. Aux États-Unis même, les barons voleurs, comme on les appelait, ont bâti leur prodigieuse fortune au tournant des 19e et 20e siècles en obtenant des États des privilèges, des régulations sur mesure, des marchés réservés. Et aujourd'hui, au Moyen-Orient, le phénomène est quasi général. Mais note, les auteurs étudiés, les effets sur les performances économiques varient selon le pays. Ainsi, la corruption plombe littéralement l'Égypte, alors que le capitalisme de copinage ne semble guère handicaper le Liban, par exemple. En Turquie, l'AKP, en arrivant au pouvoir, a favorisé les petits entrepreneurs en les aidant à tailler des croupières aux grandes compagnies déjà bien installées. Ces dernières, il faut dire, étaient politiquement liées souvent à l'ancien pouvoir. Alors, dans un premier temps, cela a eu des effets positifs sur la croissance. Mais depuis, dans plusieurs secteurs comme la construction, le capitalisme de copinage a eu pour effet de gonfler artificiellement les prix. J'en viens au deuxième livre. Anders Haslund décrit les quatre cercles formés par Poutine afin de consolider son pouvoir sur la Russie. Les trois premiers, ils associent des dirigeants de l'appareil de sécurité et puis des oligarques fidèles au président. Leur sont concédés de juteux profits dans l'exploitation du gaz et du pétrole en échange d'une complète allégeance politique. Quant au quatrième cercle, il est spécialisé dans le blanchiment et l'évasion fiscale, et il est basé, figurez-vous, à Londres et dans quelques villes des États-Unis. Le système est très différent en Chine, où les dirigeants ne se considèrent pas comme les propriétaires du pays, comme c'est le cas en Russie. Mais la modernisation sous la direction du parti unique a produit une forme de capitalisme de copinage particulièrement rapace. Les connexions entre dirigeants publics provinciaux et businessmen privés sont générales. Le flou qui entoure le droit de propriété dans ce système qui se réclame du communisme, autorise toutes sortes d'abus et de prévarications. Alors certes, Xi Jinping prétend lutter contre une corruption devenue endémique, mais le fait que les dirigeants n'aient pas de compte à rendre devant des électeurs, mais seulement devant leurs supérieurs hiérarchiques au sein de l'appareil du pouvoir, rend leur contrôle très difficile.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver évidemment sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Culture Monde consacrée aux géants du web.